Bonsoir à tous, merci d'être présents et nombreux ce soir pour cette nouvelle séance du cycle Édouard Glissant, Réel et Utopie. Nous avons décidé aussi à la BPI de commémorer les 90 ans de la naissance d'Édouard Glissant, donc cette année, puisqu'il est né en 1928. Ce soir, nous allons parler de philosophie de l'identité, donc cette séance, puisque l'ensemble du cycle est consacré plutôt à la pensée philosophique d'Édouard Glissant, cette séance sera consacrée à une nouvelle philosophie de l'identité. Donc je remercie François Noudelman qui va animer le débat ce soir, et je remercie bien sûr à l'avance François Simasocci-Brones et Myriam Cotias, mais je laisse le soin à François Noudelman de les présenter. Très bonne soirée.
Merci beaucoup Sébastien Godus. Nous allons continuer notre cycle. La première séance était consacrée surtout à la philosophie d'Édouard Glissant, c'est-à-dire à sa formation philosophique et aussi à sa pensée de la créolisation, ce que ça impliquait aussi dans le dialogue avec l'histoire philosophique occidentale. La deuxième séance aujourd'hui va être peut-être un petit peu plus politique, va être consacrée à des aspects aussi sociaux, anthropologiques et mémoriels de la pensée d'Édouard Glissant. Je vous rappelle que la troisième séance sera consacrée plutôt aux enjeux esthétiques de la pensée d'Édouard Glissant, son rapport avec les arts. Alors, je voudrais aussi dire un petit mot du titre de ces séances, s'il s'agit effectivement de la philosophie d'Édouard Glissant, mais ça s'appelle aussi « Le réel et l'utopie », parce qu'au fond, je crois que dans la pensée de Glissant, il y a à la fois de l'histoire, de l'anthropologie, de l'analyse du monde tel qu'il est, hein, et il s'agit donc aussi de donner une histoire à des populations qui n'en avaient pas ou dont l'itinéraire, la mémoire n'était pas reconnue. Donc c'est tout un travail qui s'est fait en Martinique notamment, un travail culturel très important d'Édouard Glissant à travers par exemple l'Institut Martinique et d'études. Et puis il y a de l'utopie. L'utopie, c'est un mot que revendiquait Édouard Glissant, c'est-à-dire une analyse du monde non telle qu'il est seulement, mais aussi du monde tel qu'il va. Donc du monde qui pourrait assumer, au fond, une donnée qui est impossible à ignorer, qui est qu'il se créolise. Donc qu'est-ce que ça veut dire que d'envisager, je reprends un titre d'Édouard Glissant, une nouvelle région du monde, à la fois un espace et une temporalité à venir? Qu'est-ce que ça signifierait que le monde s'archipélise? Il y a donc de l'utopie. Et ce soir, je crois qu'on va être aussi dans les deux dimensions du réel et de l'utopie, notamment en ce qui concerne l'identité, et une identité qui, dans l'analyse d'Édouard Glissant, hérite de traumatismes et principalement celui de l'esclavage, qui est une sorte de blessure ontologique de l'humanité. Mais se dessine, pour Édouard Glissant, une société qui, sans oublier ce qu'elle a connu et ces traumatismes-là, tente d'assumer une autre voie que celle du repli sur les mémoires identitaires. Donc j'emploie un mot ici un petit peu lourd et peut-être galvaudé, identitaire. C'est le sujet dont on va parler ce soir, la question de l'identité. On va procéder en trois temps, si on arrive à les respecter. Peut-être qu'on va se dérouter un peu, mais ça ne sera pas grave. D'abord, on va parler de la question de la négritude et de l'identité noire, si on peut le dire de cette façon-là, et du débat d'Édouard Glissant avec une notion qui a été forgée notamment par Césaire, notamment par Senghor et bien d'autres. Et à partir de là, on va aborder la question dans un deuxième temps de la mémoire de l'esclavage ou des esclavages, ça sera aussi un pluriel dont on va parler, pour enfin aborder dans un troisième temps un aspect plus politique, au fond, quelle société Édouard Glissant valorise-t-il entre le multiculturalisme et le républicanisme ou l'universalisme. Et on écoutera à ce moment-là un extrait d'une intervention radiophonique d'Édouard Glissant sur cette question. Alors, Mes deux invités, je les remercie beaucoup, sont Myriam Cotias. Myriam Cotias est historienne. Elle est directrice de recherche au CNRS. Ses travaux, ses publications sont bien connus sur ces questions-là. Elle est aussi directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages. Peut-être qu'elle s'expliquera sur cette notion de post-esclavage. Et voilà, elle a été aussi présidente du Centre national pour du comité national pour la mémoire de l'esclavage. Et donc, Françoise Simasocci-Bronès est professeure à l'Université de Paris 8 et spécialiste de la littérature caribéenne. Elle connaît très bien, de fond en comble, la pensée et les textes. Oui, bon, elle est trop modeste pour le reconnaître. La pensée et les œuvres d'Édouard Glissant. Elle est donc aussi, plus généralement, spécialiste de la littérature dite francophone. Alors, commençons donc le premier moment avec la notion de négritude. Notion qui est employée très fréquemment, mais peut-être au fond qu'on aurait besoin d'un petit rappel pédagogique pour comprendre ce dont il s'agit, que ce n'est pas simplement peut-être réductible à l'identité noire. Pourquoi c'est important ? Parce que Glissant, très tôt, a été en débat avec cette notion, en débat avec Césaire. Débat que quelquefois on a un peu caricaturé en disant « Ah voilà, il y a d'un côté le penseur de la négritude, de l'autre côté le penseur de la créolisation », alors que peut-être c'est beaucoup plus complexe, plus nuancé, déjà que cette notion de négritude doit être nuancée chez Césaire lui-même. Françoise Simasocci-Bronès va nous en parler dans un instant. Et qu'en est-il du débat d'Édouard Glissant avec Césaire ? Grande question qui fait sans doute l'objet de plusieurs thèses. Je voudrais juste rappeler, avant de donner la parole à Françoise Simasocci, que très tôt, Édouard Glissant a écrit qu'il était, oui, il éprouvait une certaine distance à l'égard de cette notion. Je l'ai retrouvé notamment dans une lettre de la fin des années 40, c'est-à-dire que c'est très très tôt, qu'il envoie à Michel Léris. Il a publié son premier poème au temps moderne, je le rappelais la dernière fois, et il y a un deuxième numéro qui se prépare, mais malheureusement il est un petit peu tardif pour qu'il y soit inclus, sur les littératures caribéennes. Et il écrit à Michel Léris, il dit « Voilà, moi j'aimerais bien publier quelque chose aussi, et notamment parce que j'ai des choses à dire sur la négritude et le décalage peut-être que certains peuvent ressentir à l'égard d'une notion qui est peut-être trop identitaire, trop enfermée. » Voilà. Bon, ce n'est pas une raison pour faire d'Édouard Glissant un opposant à Aimé Césaire, évidemment, mais en tout cas, c'est un débat qui est très précoce. Puisque donc, Glissant, dès qu'il a 20 ans et qu'il a été quand même au contact de Césaire, qu'il a même fait la campagne électorale de Césaire, exprime une dissonance. Hein, voilà, je vais le dire comme ça pour l'instant. Donc, nous allons écouter Françoise Simasocci sur cette première question de notre soirée.
Ça marche, là ? Ça marche ? Oui. Bonsoir à tout le monde. Merci à François de m'avoir proposé de prendre part à cet événement autour d'Édouard Glissant, dont la pensée me nourrit pas mal quand même dans mes enseignements en tant que professeur de littérature dite francophone à l'Université Paris 8. Je cite beaucoup, beaucoup Glissant dans mes cours et donc au bout d'un moment, mes étudiants savent que finissent par savoir qui il est. Alors, François a lancé cette rencontre un peu sous l'angle d'une nouvelle définition, c'est ça, de l'identité. Hein. Je suis partie sur cette réflexion à partir de ce que tu disais sur et ce que tu suggérais sur la négritude, en essayant de voir le chemin un peu de la négritude à la créolisation. En fait, quand on enseigne les littératures, dans la littérature européenne, occidentale, je ne sais pas comment la qualifier, il y a des successions de mouvements Donc on dit, il y a eu le romantisme, après... Et souvent, les étudiants, ils ont quand même le réflexe, quand ils connaissent un petit peu de la littérature et la littérature francophone, de dire, donc, il y a eu la négritude, et puis après, la créolité, c'est ça bon. Et en réalité, c'est pas, je ne sais pas si c'est dans cet ordre de succession qu'il faut envisager les choses. Il y a moins de mouvements, il y a des positionnements différents, il y a une histoire littéraire moins longue, mais qui a quand même une mémoire, finalement. Alors, pour ce qui est de la... Donc, je vais partir de la négritude, peut-être rappeler un peu ce que c'est, que c'est un mouvement qui a été initié dans les années 30 hein, par trois personnalités qu'on retient majoritairement, qui étaient Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Un Africain, un Martiniquais et un Guyanais. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont amalgamées à ce mouvement. Et c'était un mouvement qui avait pour objectif la défense de l'identité noire, hein, la défense de l'identité nègre même, hein, dans un paysage intellectuel, politique, qui était celui des années 30, qui était celui de la colonisation, qui était de la période post-esclavagiste toute fraîche dans les Antilles françaises. Donc c'était un mouvement d'affirmation culturelle, identitaire, qui était racial aussi, hein, racialisé, on dirait plus précisément. Donc, comme l'a dit François... Glissant a été très jeune confronté, en contact hein, avec cette notion, cette conception de la négritude comme étant une sorte de revalorisation de l'être nègre hein, dans un monde où il avait été sous-estimé, dévalorisé, esclavagisé, bon. Donc voilà, Glissant a été en contact puisqu'il a été très jeune en contact avec Césaire et que Césaire, rentré en Martinique, était un des défenseurs de la négritude. Mais très vite, et c'est intéressant que tu le dises, Glissant a eu une distance par rapport à la négritude. Et quand tu dis que ça s'est arrivé... Dès cette lettre à Léry, on a l'impression qu'il y avait chez lui une intuition déjà présente que ce n'était pas ce dans quoi il se reconnaissait vraiment. Parce qu'on a beaucoup trouvé d'explications, on a beaucoup insisté sur ce rejet de la négritude par Glissant. On y a vu un problème générationnel, on a vu une stratégie posturale dans l'inscription dans l'institution littéraire. Mais à ce que tu dis, ça paraît un peu plus complexe. Peut-être que à cette période, c'était un petit peu difficile, qu'il n'y avait pas autre chose comme mouvement global, c'était peut-être difficile d'en être tout en n'en étant pas. voilà. Et donc, Glissant, il a été assez proche de Césaire. Hein, il a été au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à la Sorbonne en 1956. Il a poursuivi aussi cette quête d'identité et de réévaluation de l'être nègre, hein, je pense. Hein, on va le retrouver, on le retrouvera dans la créolisation, ça, hein, dans le point de vue qu'il prendra après. Alors moi, j'avais, quand j'ai commencé à réfléchir à la question, j'ai regardé un petit peu, moi je travaille beaucoup sur les œuvres littéraires, voilà, personne n'est parfait. Et en fait, j'ai repris les romans de Glissant je me suis aperçue qu'on constate dans les... Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je pense que la question de la relation à la négritude a aussi à voir avec la question de la relation à l'Afrique. Puisque la négritude, c'est l'être nègre, ce sont les racines africaines. Hein, Césaire avait, dit-il, en rencontrant Senghor, renoué avec ses racines africaines. Hein, il les avait retrouvées, reconnues, etc. Donc, voilà, il faut aussi voir la place de l'Afrique dans la pensée, en tout cas dans l'écriture d'Édouard Glissant. Et moi, quand j'ai cherché dans sa production romanesque, je me suis aperçue que l'Afrique, elle est omniprésente dans sa production romanesque, de son premier livre, de son premier roman plus exactement, parce qu'il y a aussi la poésie. Il y avait eu les Indes avant, une épopée, une contre-épopée retraçant la traite. Donc dès son roman La Lézarde en 58, le 4e siècle, Malemort, Casque du commandeur, etc. Dans tous ses romans, ses premiers romans, l'Afrique est omniprésente. Mais elle n'est pas nommée comme telle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il passe souvent par des périphrases qui marquent une inconnaissance de l'Afrique. Hein. Pays d'avant, pays d'au-delà des mers, pays infini, ou des synecdoques, Congo, Guinée, etc. Hein. L'Afrique, elle est figurée par certains personnages aussi, et notamment la figure de Papa Longwe dans le 4e siècle, et aussi dans La Lézarde, qui est le lien, l'ancêtre fondateur, celui qui fera le lien avec l'esclavage et avec l'origine africaine. Donc, on a l'impression que quasiment l'Afrique est là, mais elle est impénétrable, elle est mythique, hein, et elle est impénétrable comme l'est pour Glissant l'origine. Hein, c'est la vision que Glissant a de l'origine. Avec l'esclavage, quelque chose a été rompu hein, dans la filiation. Il y a ce trou béant de l'origine. Hein, pour les communautés, pour les populations qui ont été déportées d'Afrique, qui ont été déportées dans la Caraïbe. Et il y a vraiment l'image d'une sorte de fossé hein, infranchissable. Il y a quelque chose du temps qu'on ne remontera jamais, jamais de manière insatisfaisante. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'il y a eu cette distance aussi avec la négritude. C'est, si l'écriture d'un auteur peut nous donner à voir quelque chose de l'auteur, dans le roman de Glissant, on sent cet intérêt profond pour l'Afrique, hein, mais quelque chose qui est c'est mon sentiment, hein, de l'ordre de l'éloignement absolu, impénétrable, voilà. Alors, l'Afrique va réapparaître dans Tout le monde, c'est un roman qui publie, j'ai pas noté la date, enfin. L'Afrique réapparaît, mais c'est une autre Afrique. Hein. C'est l'Afrique coloniale, c'est l'Afrique réelle, celle actuelle, contemporaine. Hein. Elle n'est plus l'Afrique mythique. Mais je crois que pour Césaire, il y avait un lien avec cette Afrique mythique. Et il y avait ce lien qu'il pouvait ressentir au moment même où il écrivait, dans les années 30, 40, 50, etc. Et pour Glissant, j'ai l'impression que ce lien avec l'Afrique mythique, il n'a pas réussi à le trouver réellement. Il savait qu'il était là, mais pour lui, c'était un lien qu'il... Et d'ailleurs, dans un de ses poèmes, il a écrit un poème qui a pour titre... Afrique, hein, et qui est contemporain de La Lézarde. Hein, et dans ce poème, il dit clairement que l'Afrique ne m'a pas accueilli. Je ne trouve plus la citation, je l'avais notée. Hein, il n'a pas été accueilli par l'Afrique. Hein, Donc, je pense que dans le rapport avec la négritude, il y a ce passage par l'Afrique, hein, à plusieurs reprises dans ses textes. On voit qu'il dit « nous ne sommes pas des Africains ». Dans un de ses textes, dans Balmore, il y a un personnage qui dit « nous ne sommes pas des Africains ». Hein. La négritude reste liée pour lui à l'Afrique. Et dans plusieurs entretiens, il dit que lui pense qu'on ne peut pas... il se méfie beaucoup, dit-il, des mouvements des gens qui veulent retourner vers l'Afrique, parce que pour lui, entre l'Afrique et les populations d'Africains, la diaspora africaine, si on veut utiliser le terme, il faudra l'utiliser entre guillemets, là, déportées dans la Caraïbe et dans les Amériques, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est différent. Alors, c'est cette... blessure ontologique dont tu parles, je crois que c'est vraiment, j'y reviendrai après, parce que c'est vraiment ce qui a préoccupé, enfin, je pense que c'est vraiment la ligne de fond de son écriture. Sans cesse, il revient à ça. à tous les stades de son écriture, il revient à cette question de l'esclavage. Et puis, il y a aussi le fait que, pour lui, quelque chose a changé. Hein, il le dit aussi. Il dit que pour l'esclave qui a été qui est arrivé aux Amériques, le migrant nu. Hein, il parle du migrant nu. Il le décrit comme ça, celui qui avait tout perdu dans la grande houle du voyage, y compris son nom. Hein, et il dit le migrant nu, il arrive sans rien et à la différence des autres mouvements d'exil ou de déplacement, il va être changé en autre chose. Et c'est tout le phénomène de la créolisation qu'il décrit là. Pour lui, l'esclavage a produit le transbordement, l'arrivée dans les Caraïbes, la vie dans la plantation, le contact des humanités a produit quelque chose d'imprévisible. Qui s'est construit beaucoup sur la pensée de la trace, hein, puisqu'il dit qu'il y a eu des traces qui ont été transportées, bien sûr. Hein. Je crois que c'est lui faire un procès que de penser qu'il veut rompre avec l'Afrique. Il sait très bien que toutes les traces africaines ont été transportées, mais la rencontre, hein, je crois qu'il met l'action sur la rencontre, et pour lui, de la rencontre des humanités venant des quatre continents, hein, dans cet endroit du monde à l'entrée, qui tourne le dos à l'ancien monde, enfin, et qui ouvre vers les Amériques, hein, qu'on a appelé à tort ou à raison le Nouveau Monde, il y a quelque chose qui s'est produit, hein, il y a une rencontre qui s'est produite et ça a changé. Et il y a eu une mutation de l'identité. Voilà. Et on en arrive à son idée de la créolisation. Hein. Qu'il n'est pas le seul à défendre. Hein. Il y a d'autres penseurs qui ont pensé la créolisation aussi. Hein. Moi, j'ai relu justement les textes de Depestre, etc. Il y a quelque chose qui a changé. Et je crois que c'est pour ça, peut-être, qu'il y a eu cette défiance tout le temps, enfin, par rapport à la négritude. Pour lui, l'origine, le fil de l'origine, il ne peut pas être un fil qui descend tout droit vers l'Afrique. Il y a eu des choses qui se sont amalgamées, qui se sont construites entre-temps. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on oppose, parce qu'il y a eu dans la vie littéraire, la vie politique, intellectuelle, antillaise, des martiniquaises notamment, une opposition entre Césaire et Glissant. Césaire qui a fait des choix politiques qui lui ont été reprochés, hein, par la génération des plus jeunes, hein, puisqu'il a fait le choix de la départementalisation, ce qui lui sera reproché par la suite. Mais bon, sur la négritude, moi, il y a une chose qui a deux choses, que je dirais deux choses avant de parler très rapidement de la créolisation et après j'arrêterai. Sur la négritude, la position de Césaire, la conception de Césaire et celle de Senghor n'est pas la même, hein. Tout à fait la même non plus, hein, parce que Césaire, c'était une conception de la négritude américaine, entre antillaise, qui n'est pas tout à fait la même que la conception de la négritude africaine, sangorienne. Césaire, sur cette question de la négritude, il a prononcé en 1987, lors d'un congrès à Miami qui était consacré à sa pensée, il a prononcé un discours, et c'est ce qui s'intitule « Le nouveau discours sur la négritude ». Et il disait dans ce discours, ce nouveau discours sur la négritude, il disait, ce terme, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a suscité beaucoup de questions, le terme négritude. Il y a des gens qui ont reproché, hein, d'en faire une essence, de faire du fait d'être nègre une essence. Hein. Il dit, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, comme je l'ai conçu et que je l'ai porté avec mes amis, je le garderai. Mais il redéfinit la négritude. Hein, et il élargit considérablement la négritude, et il dit lors de ce colloque, il dit ce qui nous réunit aujourd'hui, il parle aux gens qui sont dans la salle, ce n'est pas seulement une couleur de peau, C'est aussi une communauté de souffrance. Il met dans la négritude tous ceux qui ont connu des épisodes de souffrance, des territorialisations, d'exploitation, etc. Et donc, ce discours sur la négritude, il s'est détaché aussi de l'unicité de la racine africaine pour Césaire en 1987. Alors, là-dessus, je pense que la position de Glissant par rapport à la négritude a aussi évolué, je pense, parce que il a dit lui-même, je crois qu'il a, j'aimerais bien retrouver, je ne redis aucune des notes que j'avais prises. Voilà, je cite Glissant là, il dit « La négritude est un phénomène historique absolument nécessaire et incontournable, étant donné l'état des Noirs du monde entier dans la conscience universelle. Il fallait aussi revenir à des notions plus complexes et détaillées de la réalité des pays antillais. J'ai toujours pensé, et c'est là qu'une évolution s'amorce, que les pays antillais et Sud-Amérique étaient des pays de métissage, à savoir de mélange, de multicontact, etc. » Donc en fait, là, dans la citation que je viens de vous lire, on voit bien ce passage, reconnaissance de la nécessité de la négritude, mais en même temps une pensée qui est une pensée de dépassement et qui est une pensée, je pense, de meilleur ajustement à la réalité antillaise, qui n'est pas la réalité africaine, qui n'est pas la réalité brésilienne, qui n'est pas la réalité, je ne sais pas, nord-américaine, par exemple, pour ce qui est la question des Noirs. Voilà. Donc, avant la créolisation, Glissant va donc avoir un premier mouvement qui est celui de l'antillanité, dans lequel beaucoup d'écrivains vont se retrouver, et beaucoup d'intellectuels vont se retrouver. Donc, l'antillanité plutôt basée sur les Antilles et l'archipel caribéen. Donc, il y a toute une période de réflexion là-dessus. Et à partir, avec une des velléités de réalisation politique qui n'aboutissent pas, et qui reste, qui fait que, de fait, Glissant se rend compte, ça apparaît dans le discours antillais, qui est publié en 81, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible, parce qu'il y avait l'idée d'une confédération antillaise, d'une confédération caribéenne, et il n'y avait peut-être pas suffisamment de conscience politique nécessaire à l'avènement de cette confédération. Et puis d'autres raisons certainement, je résume vraiment de manière très, très sommaire. Et donc je pense que de cette antillanité découle l'idée, peut-être la notion de créolisation que Glissant a beaucoup développée, qui était l'idée que l'identité antillaise n'était donc pas une identité de la racine unique, ce n'était pas possible, qu'elle était une identité qui était liée très intimement à son histoire et à son histoire de rencontre de peuples, d'humanité, comme disait Glissant, des humanités des quatre coins du monde qui s'étaient rencontrées là et qui avaient créé quelque chose de nouveau. Le créole, l'être créole est un être toujours en devenir, d'ailleurs, selon lui. C'est pour ça que la créolité et la créolisation, ce n'est pas la même chose. La créolisation, c'est un processus. Et Glissant disait que les rencontres, la relation qui s'établissait à partir des rencontres, créaient des identités en recomposition permanente en fonction des retraits, des rencontres. Et Glissant n'a pas inventé la notion de créolisation. Cette notion, elle existait déjà. Elle a d'abord été linguistique, puis elle a été élargie de manière anthropologique. Mais je crois qu'il a donné à la créolisation vraiment ses... D'abord, il a élargi considérablement les champs d'application de cette créolisation. Et puis, la créolisation a permis de sortir du local... puisque pour Glissant, la créolisation touche le monde entier, à la rencontre des humanités. Pour lui, ce qui s'est passé dans la Caraïbe n'a fait qu'anticiper ce qui allait se dérouler après à l'échelle du monde entier. Donc d'où ces formules, le monde entier se créolise, d'où cette vision d'un monde aussi construit en archipel. Et donc, je crois que c'est lui qui a le plus divulgué, au sens propre, au sens noble du terme, cette notion de créolisation. Bon, la créolisation est quand même née à partir de l'expérience esclavagiste, hein, qui a été une expérience... il parle de l'expérience du gouffre, hein, de ceux qui ont fait l'expérience du gouffre, hein, du chaos, et ensuite... de la Renaissance et voilà. Bon, je m'arrête parce que sinon,
mais, merci bon, beaucoup. Ouais. On va discuter un tout petit peu de ces réflexions. Juste quand même, merci de complexifier la relation entre Glissant et Césaire. Je voudrais juste rappeler à l'appui de ce que tu dis que Glissant a écrit un magnifique hommage à Césaire lors de la mort de ce dernier. Et c'est intéressant parce que juste après, je regardais dans les archives un débat qu'il menait où là, il était, il réaffirmait ses positions, disant qu'il était en désaccord avec la négritude, mais il disait au fond, mon problème, je l'ai pas avec Césaire, je l'ai avec les Césariens. Il disait, voilà, c'est comme voilà. Il faut dégager Marx des marxistes ou Hegel des hegeliens, je sais pas, et Césaire des césariens. Et il disait, bon, tous ceux qui prennent au pied de la lettre « noir je suis, noir je resterai » ne comprennent rien. Et il disait, justement, comme tu viens de le rappeler, que la négritude, c'était un moment nécessaire, voilà, mais un moment qui était un moment transitoire et qu'il fallait dépasser. Hein. Un moment de revendication, de réhabilitation, d'une culture. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est Fanon. Et peut-être qu'il était plus proche de Fanon que de Césaire sur cette question de la négritude. Et notamment quand Fanon, justement, lui, prenait ses distances au moment de la décolonisation africaine, en ne croyant pas à la culture nègre ou noire.
Oui, il ne voulait pas qu'on le résume à ça, d'ailleurs.
Voilà. C'est ça. Et disant, en fond, c'est aux nations de se libérer elles-mêmes. Et c'était l'entité-nation qui était peut-être plus importante. Alors, pour lancer quand même un petit peu quelques questions et de débats entre nous et entre vous, je voudrais rappeler, au fond, que dans ce que tu as dit à propos de l'Afrique, je crois que ce que tu as dit de l'Afrique, elle est mythique pour Glissant, mais ce qu'il dénonce, justement, c'est l'Afrique comme mythe, il me semble. C'est-à-dire l'afrocentrisme.
Oui, hein. Mais c'est un mythe impénétrable, donc c'est un mythe auquel il ne peut pas se référer, parce que, tu vois, enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu, parce que dans ses textes, tu la sens, cette Afrique, mais il s'est passé quelque chose, tu sais, dans ses romans, où ils arrivent, il y a deux esclaves qui débarquent, et on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on ne remontera jamais ce temps-là. Ouais.
C'est pour ça qu'il n'appréciait pas Roots, le livre de... Alex Allais, sur justement le retour à l'origine africaine. Voilà. C'est pour ça aussi, je rappelais récemment aussi qu'il était en total porte-à-faux aux États-Unis avec les mouvements initiés par des intellectuels comme Henry Louis Gates des mouvements notamment qui ont un gros succès encore aujourd'hui, sur les sites par exemple African Ancestry, où on peut retrouver grâce à des tests ADN ses origines et trouver une sorte de vérité généalogique. Et je crois pouvoir dire quand même que pour Glissant, c'était vraiment une perspective horrible d'imaginer que parce qu'on pouvait tout d'un coup découvrir que des ancêtres avaient vécu à tel ou tel endroit de l'Afrique, là on pouvait retrouver la vérité de son être, comme si on existait. Comme si l'être, c'était son passé, alors que bon, c'est plutôt effectivement le devenir, l'être.
Mais c'est pour ça que je pense que la créolisation, c'est une identité courageuse. Oui. Parce que c'est une identité qui assure la perte. Je pense, c'est pour ça que quand je dis la relation au mythe, pour moi, c'est la perte. Oui. L'Afrique, elle est perdue. Et elle manque au cœur, mais elle est perdue. Donc c'est courageux d'accepter la perte, parce que dans ce genre de comportement que tu décris, il y a l'idée de se rassurer, et il faut accepter de ne pas être rassuré. Ben ça, c'est terrible. Ah oui.
Et alors, pour aborder une question un peu vive aujourd'hui, contemporaine, et pour savoir si les idées de Glissant, elles sont utopique, justement, s'il est du long utopie, si au fond cette utopie ne correspond pas à ce qui se passe en ce moment, je voudrais qu'on aborde la question à la fois américaine et française, c'est-à-dire l'emploi du mot noir, L'emploi des mots africains, américains et du coup maintenant en France afro-européen ou afro-péen.
Afro-péen.
Voilà. Et on pourrait se dire, au fond, voilà, il y a aussi, et avec une totale légitimité évidemment, mais des organisations qui tiennent aujourd'hui à revendiquer le mot noir et donc à défendre, à défendre la situation des noirs. Donc la reprise de ce mot-là, et on peut dire aussi aux États-Unis, malgré la période Obama et les illusions peut-être d'une société post-raciale, le retour à un langage de la race, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis que aussi en France, nous laisserait penser là que, eh bien, on est bien, je ne sais pas, on est loin d'une créolisation et qu'on est peut-être sur un retour à des identités identitaires ou des identités ethniques. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Myriam Cotias.
Oui, c'est une question qui est prégnante en effet, parce que je rappelle qu'on est cette année, nous allons célébrer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais aussi la déclaration à la Sorbonne, c'est les 20 ans,
oui.
Entre Wolesinka, Patrick Chamoiseau, oui. Et Glissant, qui, quand même, c'est un texte qui est aussi très important. Et,
oui, 98.
En 1998.
Oui,
exactement. Donc, la question de la race, me semble-t-il, n'a jamais disparu. C'est plutôt ça que j'aurais voulu dire, parce qu'il y a des euphémisations de la race en permanence, mais elle a toujours été bien présente. Césaire, justement, s'il emploie le terme de nègre, c'est pour lutter pour magnifier une identité qui s'est construite comme une équivalence du terme d'esclave dans le monde atlantique. Puisque, alors je parle en historienne, je le dis tout de suite, puisque tout au cours de l'esclavage atlantique va se stabiliser une équivalence entre nègre et esclave. C'est-à-dire que quand on dit un mot, on signifie l'un et réciproquement. Donc c'est précisément ça. Et moi j'entends la négritude comme cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une définition d'une identité, mais on est dans un renversement de l'histoire, mais qui veut toucher à l'universel. C'est-à-dire c'est réintroduire dans une histoire universelle cette part de l'histoire. Alors qui de fait est nègre, mais qui à mon avis ne définit peut-être même pas une couleur. Elle définit une position dans l'histoire.
Je rappelle cette phrase de Genet que j'aime bien. C'est de quelle couleur un noir ?
Oui, exactement. Exactement. Donc la race n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu dans les Antilles françaises. Elle n'a pas disparu d'ailleurs dans l'ensemble de la Caraïbe, ni même en France hexagonale. Tout à fait. Alors pour moi, pour cette soirée, j'ai relu en fait le texte de Glissant, Mémoire des esclavages, qui doit être un de ses derniers textes, je pense, publié en 2007, qui est un bilan, et je pense que c'est un bilan de sa pensée autour de ces questions-là. En tout cas, il revient sur un certain nombre de questions, mais c'est aussi un projet. C'est aussi un projet qui est de faire un grand centre national sur les esclavages, qui serait à la fois un centre de recherche, un centre de documentation, un centre de rencontres et de discussions qui se ferait à Paris. Alors, il faut aussi que je dise en préalable qu'il me semble que Glissant a été, et pour les historiens, et quelqu'un qui est à la fois gênant, parce que dans son discours, il dit souvent des choses qui sont très fausses du point de vue des historiens, il faut le dire, et qui en même temps est une source d'inspiration, parce que justement, il nous donne des clés que l'on ne trouve pas dans les archives, ou en tout cas il nous donne des éléments qui sont plus de l'ordre de l'anthropologie ou de l'utopie, de l'utopie dans le sens de constitution, enfin d'idées qui sont dans une société qui ne se disent pas. Enfin, c'est une définition de l'utopie un peu détournée que je dis, mais justement c'est pour arriver à la notion de trace et de détour que Glissant utilise et qui pour les historiens, à mon avis, est une notion très très importante quand on parle de domination, quand on parle de la violence esclavagiste et quand on parle du dénigrement des individus qui sont placés dans une échelle de hiérarchie. Alors, échelle de hiérarchie qui est socio-raciale, c'est à la fois qu'on combine à la fois le statut de la personne et la définition de sa couleur. On n'est pas simplement la couleur ne se dit pas uniquement. Enfin, la couleur n'existe pas telle qu'en elle-même. Elle existe dans ce croisonnement de positionnement. Et pour faire écho à ce que disait Genet, de quelle couleur est un nègre, on pourrait rapporter cette anecdote à Noir. Rapporter cette anecdote qui est tiré d'une enquête de Michèle Labelle, qui est une anthropologue québécoise, qui fait une enquête auprès des paysans haïtiens. Et elle voulait justement établir la palette de couleurs et de dénominations de couleurs qui existaient dans les campagnes haïtiennes. Donc elle avait fait tout un ensemble de photos de personnes qu'elle présentait aux paysans, leur disant, mais voilà, alors telle personne, de quelle couleur est-elle? Comment vous allez la définir, telle autre personne? Et on lui disait, mais quel est le métier de cette personne? Il disait, non, mais moi je ne vous demande pas le métier, je vous demande sa couleur. Et on lui répondait systématiquement, mais tant que vous ne nous aurez pas dit quel métier cette personne exerce, ben on ne pourra pas vous dire sa couleur. Donc ça, c'est un élément qui est très important, parce que, bien évidemment, dans une pensée philosophique ou dans un écrit littéraire, on va employer de grandes catégories qui sont des super catégories, du blanc, du noir, voire du métis, mais qui ne disent pas grand-chose finalement du fonctionnement de la société, qui ne disent pas grand-chose de cette finalement de la finesse de la relation de domination. C'est-à-dire comment la relation de domination, elle se décline à des niveaux qui sont extrêmement fins. Donc Glissant est important pour l'histoire. Il l'a été particulièrement, je pense, pour la question de la mémoire de l'esclavage, où sa notion de mémoire raturée, de mémoire oblitérée, ont été très performantes pour les historiens qui, après analysant les effets de 1848 et de l'abolition, réfléchissaient autour de ce discours républicain qui se construit par une mise à distance de l'esclavage. C'est-à-dire que le discours historique de la Troisième République, dans ce moment où la France va se définir, met vraiment à distance non seulement la question de l'esclavage et la question coloniale, mais met aussi à distance tous les Antillais, enfin les descendants de cette histoire de l'esclavage. Et ça a été très important pour nous, historiens, d'avoir cette notion de mémoire oblitérée, de mémoire raturée, puisque tout à coup l'objectif devenait pour les historiens de retrouver cette mémoire. Je pense que Édouard Glissant ne faisait pas beaucoup confiance aux historiens pour retrouver cette mémoire, puisqu'il a eu toute une partie et tout un jugement assez sévère sur les historiens qui ne s'occupaient que des archives écrites et qui, les historiens qui ne composaient leurs réflexions, n'appuyaient leurs réflexions que par les récits de voyageurs ou encore les rapports d'administrateurs. Et nous n'avons pas eu le temps de le rassurer sur ça et de lui dire que la méthode historique, en fait, avait beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est, vraiment passé, et ça rejoint une des préoccupations qu'il a dans Mémoire des esclavages, on est passé d'une histoire de l'esclavage qui reposait sur une analyse des structures, qu'elles soient économiques, qu'elles soient démographiques, à une histoire de l'esclavage qui s'intéressait aux individus particulièrement.
Mais quand même, il y a des pluriels, mémoire au pluriel, des esclavages.
Oui, je vais revenir sur ce pluriel des esclavages, parce que je ne pense pas que ça soit lié directement à cette analyse des sources. Les historiens sont allés, ont cherché et cherchent à aller au plus près de l'individu mis en esclavage, en allant chercher des histoires qui sont des histoires individuelles de personnes mises en esclavage, qui ont été rendues possibles par une autre analyse des sources et qui permettent d'incarner cette relation de domination esclavagiste. Donc ça, c'est la première chose. Nous n'avons pas eu le temps de le rassurer sur le travail des historiens. De plus en plus, nous travaillons beaucoup sur les questions de biographie de personnes mises en esclavage, mais ça m'amène à introduire ce terme qui maintenant est important dans la recherche historique sur l'esclavage, qui est celui d'esclaviser. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'esclaves. On parle d'esclaves pour des personnes quand on veut parler du statut d'une personne qui certes est esclave, et c'est un statut juridique d'être esclave. Mais justement, ce questionnement que Glissant a sur l'être réellement, sur l'expérience de l'esclavage, il est symbolisé maintenant par ce terme d'esclaviser. C'est-à-dire qu'on dissocie le statut de ce que c'est que la personne. Et le faisant, on reconnaît un statut de personne et d'individu à l'esclave. Et ça, c'est une rupture épistémologique qui est très forte, parce que ça permet de penser aussi les esclavisés comme partie de leur histoire.
Pardonne-moi, Myriam, comme l'heure avant, je voudrais insister sur deux audaces épistémologique peut-être, je sais pas si, d'Edouard Glissant dans ce texte Mémoire des esclavages, et deux sujets qui font polémique. D'abord, peut-être la plus grande audace, lorsqu'il dit que l'affaire, la mémoire des esclavages, ou de l'esclavage, là, est l'affaire non seulement des descendants d'esclaves, mais aussi des descendants d'esclavagistes.
Oui.
Et qu'il s'oppose à ce qu'il appelle au début du texte une mémoire de la tribu, pour proposer une mémoire plutôt monde.
Alors, est-ce que une mémoire partagée, ce qui est très importante pour lui. C'est l'objectif de ce texte-là. C'est-à-dire, on n'est pas dans une opposition, mais on doit construire un monde, un tout monde qui comprend justement et qui permet le métissage, qui permet le mélange et la créolisation, où justement l'esclavage est central. Pour revenir au pluriel, parce que c'est lié à cela, pour revenir au pluriel, c'est justement dans le fait de constituer une mémoire partagée entre descendants d'esclavagistes et descendants d'esclaves. C'est en créant cet espace-là que justement lui-même s'ouvre au monde et que lui-même s'ouvre à tous les systèmes d'esclavage qui ont pu exister, qui lui permet de les comprendre dans leur totalité, parce que justement on est dans un tout monde et c'est celui-là même qui l'intéresse. Malheureusement, il y a la pensée de Glissant aussi est traduite de façon opportuniste et banal par certains acteurs. Et ce qui est dommage, c'est que justement, cette notion de descendant d'esclave, que lui ne construit pas comme une identité fermée, mais c'est une identité qui est en relation, et en relation notamment avec les esclavagistes, les descendants d'esclavagistes, mais en relation avec le monde entier. Cette notion de descendant d'esclave, on voit actuellement qu'elle est reconstruite, redéfinie comme une identité close, exactement ce que Glissant combat dans ce texte-là, et que d'une certaine façon, et ça c'est, bon, c'est une conclusion, enfin j'espère que ce n'est qu'un passage et non pas une conclusion, que les identités closes qui ont l'air de faire floresse, de se présenter actuellement comme vérité totale et immuable surtout, ne vont pas l'être. Oui.
Oui. Toujours dans cette question du pluriel et d'une audace aussi, à propos des esclavages, parce qu'il y a les esclavages donc, aussi contemporains, d'ailleurs il termine là-dessus, sur les esclavages d'aujourd'hui. C'est pas du tout pour relativiser les esclavages, notamment la traite transatlantique, mais parmi les audaces, il y a aussi le souci d'une reconnaissance de la traite arabe. Oui. Et je rappelle quand même aussi la signature de la déclaration de Tozer pour demander à ce que aussi, même si c'est une autre, je vais parler à ta place, toi qui sais parfaitement de quoi il retourne, mais que, bon, qu'il y a aussi ce déni d'une longue histoire nombreuse de l'esclave arabe.
Oui, si ce n'est que là, il faut prendre toujours les questions, me semble-t-il, à plusieurs niveaux, parce qu'on voit bien comment la question de la traite arabo-musulmane ou de la traite interne africaine, d'ailleurs, ont eu des fonctions idéologiques, et notamment dans le débat en France. Parce que c'était une façon de dire, finalement... Il y en a dans ces espaces-là, donc finalement, la traite européenne n'est pas si importante que ça. C'est bien sûr pas du tout la démarche de Glissant, mais ça a pu être le centre d'un débat dans les années 2005. Donc ça, c'est le premier niveau qui est vraiment à décortiquer, et il n'y a pas de tabou. Sur cela, les historiens et les anthropologues ont largement travaillé. Il y a des livres qui sont sortis là-dessus.
Un dernier mot parce qu'on est obligé d'avancer, sur cette question de la mémoire. Est-ce que tu pourrais dire un mot d'un débat aujourd'hui très vif sur la question de la réparation ou des réparations, puisque Édouard Glissant en parle aussi avec distance. Et est-ce que tu pourrais dire un mot sur la demande de réparation, notamment la réparation financière?
Oui, la réparation financière, bon, que Glissant, en fait, je vais vous lire ce qu'il dit parce que ça sera le mieux. La réparation financière, contre laquelle il est totalement opposé. C'est la première proposition qu'il fait pour le Centre des Mémoires qu'il construit dans ce texte-là. Et il dit « Nous, descendants de ceux qui ont souffert l'esclavage, nous héritons de ce qu'ils ont accompli, leur patience et leur ténacité, l'humilité avec laquelle ils ont maintenu la mémoire du pays d'avant, et quand ils l'eurent égaré, la ténacité avec laquelle ils ont soutenu leur rapport nouveau avec la terre nouvelle, soit dans les îles, soit sur les continents, dans la plantation ou le bourg ou la ville. Et nous avons hérité leurs œuvres. Mais nous n'avons pas hérité leur souffrance. » Ça, c'est un passage qui est très important. « Mais nous n'avons pas hérité leur souffrance, voyez-vous. Quelque effort que nous fassions, nous ne retrouverons jamais à leur place dans la gêne et l'intolérable. Il y a cette distance à jamais entre eux et nous de l'accomplissement d'un irrémédiable, et quoi que nous puissions crier, nous ne comblerons pas cette distance. C'est pourquoi... Il semblerait dérisoire et même inconvenant de réclamer des redevances, des arriérés ou des témoignages de repentance, comme si nous allions monnayer toutes ces échéances et comment et pourquoi faire de tels deniers. » Et il conclut ce passage Oui, cet esclavage monstrueux et insaisissable a été plus que positif, mais du fait inclusif de ceux qui l'ont enduré et contre l'opposition obstinée de ceux qui en ont bénéficié. La seule réparation qui doit être faite est aux nations de l'Afrique noire pour ce sous-développement total dans lequel la traite les a d'abord précipités.
D'accord. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à un troisième temps sur les implications pour les sociétés, non pas seulement caribéennes, mais France, par exemple la société européenne, et la conception politique finalement qui se dégage de la philosophie de l'identité proposée par Glissant. Qu'est-ce que ça veut dire au fond qu'une société qui assume sa créolisation, hein, qui assume le mouvement de la créolisation, et en termes politiques, je crois qu'il faut qu'on dise un mot de la manière dont Édouard Glissant, me semble-t-il, a dépassé une opposition sur laquelle on est toujours fixé en France, entre d'un côté les universalistes, de l'autre côté les particularistes, d'un côté les communautaristes, de l'autre côté donc les universalistes, on a les républicains ou ceux qui sont pour les identités communautaires. Pour le dire autrement, quelquefois on pense que Glissant est du côté des sociétés multiculturelles. Or, je crois qu'il a vraiment contesté tous ces modèles pour... je crois que je ne vais pas parler à sa place. Au fond, on parle sans arrêt d'Edouard Glissant. Ça serait peut-être le moment de lui laisser la parole. Hein, je crois que d'ailleurs, j'espère qu'on donne envie de le lire et de l'entendre. Donc, si la régie veut bien passer un extrait, c'est un extrait d'une émission que j'avais faite avec lui à France Culture, et où c'est un passage où je lui demande de parler de la question de l'assimilation, de la résistance aussi à certaines de ses idées, du repli identitaire, et vous allez écouter sa manière de réagir et qui est un propos sur, je crois, très actuel sur encore les problèmes de la société, notamment française, aujourd'hui.
Mais là, précisément, vous savez aussi qu'il y a une résistance à vos thèses du côté de certains groupes afro-américains qui, justement, considèrent qu'il faut, au contraire, même si c'est mythique, revenir à une pensée des racines, revenir aux origines africaines, parce que ça fait partie d'une stratégie de lutte par rapport à l'oppression blanche. Donc, et donc du coup, le métissage ou la créolisation peuvent apparaître comme un moyen commode d'évacuer cette nécessaire reprise en main d'une histoire.
C'est absolument faux.
D'une aliénation.
C'est absolument faux. Parce que l'oppresseur, le dominateur blanc, dans n'importe quel pays où il y a domination, n'est-ce pas, s'accommoder de toutes les résistances, disons ethniques, etc. La seule chose dont il a peur fondamentalement, c'est du métissage. C'est la seule chose dont il a peur. Il a peur d'être mélangé. Et c'est la seule chose qu'il faut l'obliger à accepter. Et il me semble que les gens qui disent ça se trompent, mais complètement, sur l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est pas d'être plus noir que noir pour être plus libre, c'est d'obliger les gens à concevoir qu'il y a une créolisation qui se fait et que dans cette créolisation, noir, blanc, rouge, jaune, c'est la même chose, que c'est la même force et la même... Et ça, c'est le véritable combat. Ça, c'est la véritable libération de l'esprit. D'ailleurs, je pense que les gens auxquels vous faisiez allusion, qui pensent qu'il faut... Il faut résister en étant des noirs, ou il faut résister en étant des rouges, ou il faut résister en étant... ça commode bien de cette situation. Et que les oppresseurs s'en accommodent aussi. Les oppresseurs craignent davantage la créolisation qu'ils ne craignent l'opposition de... Ça, je suis sûr de ça. Ça, c'est la chose certaine. Et parce que la créolisation... Et je veux répondre à une autre objection que vous avez semblé faire. La colonisation, c'est le mouvement même du monde. Mais pourquoi voulez-vous que j'aille, que nous allions à l'encontre du mouvement du monde? Le mouvement du monde, c'est de créer, premièrement, une nouvelle sorte d'être et de collectivité qui ne sont plus basées sur la filiation, la légitimité et la racine unique. Ça, c'est sûr. Dans le monde entier, c'est le mouvement. Et c'est un mouvement libérateur. Ce n'est pas un mouvement oppresseur. Et ce n'est pas un mouvement de dilution. Ce n'est pas un mouvement d'éparpillement dans l'air.
Oui, parce que c'est ça aussi, la colonisation, ce n'est pas non plus pour vous l'assimilation.
Absolument pas. Absolument pas.
Ça, il faut le préciser.
Bien. Oui, oui, ce n'est, mais absolument pas. Je suis contre toute assimilation. Je vais plus loin. Je suis contre la notion d'intégration.
Vous pouvez vous expliquer là-dessus?
Oui, je peux dire que, par exemple, une communauté peut se considérer une nation qui n'est... Bon, les nations, les États-nations disparaissent de plus en plus, hein. Nous sommes d'accord dessus. Mais les nations, non. Mais une nation peut se considérer comme un ensemble de cultures mises en relation sur une terre sans que une de ces cultures intègre les autres. Pourquoi ? Pourquoi une nation ne pouvait pas être constituée d'ensemble de cultures qui sont en relation sans s'éteindre ni se diluer? Et c'est pour ça que je suis contre le mot intégration. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a des communautés qui sont parfaitement américaines et parfaitement chinoises. Parfaitement américaines et parfaitement italienne, parfaitement américaine et parfaitement irlandaise. Et il n'y a pas eu dilution, on n'a pas intégré les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, n'ont pas intégré les Italiens. Ils ne les ont pas bouffés culturellement, ils ne les ont pas obligés à s'habiller avec un chapeau melon et un parapluie, etc.
Et la relation, alors, elle marche entre ces communautés?
La relation ne marche pas encore. C'est pourquoi je dis que les États-Unis sont un pays de multiculturalisme, mais pas encore un pays de créolisation. Parce que ces communautés, bon, ça se fait de plus en plus, hein, oui. Mais ce n'est pas encore totalement fait. Il n'y a pas une créolisation achevée. La créolisation achevée, c'est quand chaque communauté, n'étant pas intégrée à un modèle supérieur, dit supérieur, accepte que le rapport avec d'autres communautés, pas le rapport d'intégration, mais le rapport d'interférence. Vous verrez difficilement, mais ça se voit de plus en plus, des mariages interraciaux entre, peut-être entre blancs et noirs, mais entre asiatiques et hispaniques, ou entre, etc., aux États-Unis, c'est très rare. Il n'y a pas encore cette relation. Mais il n'y a pas non plus intégration. Personne n'a intégré personne. Et pourquoi voulez-vous que dans une société, sous prétexte que cette société est à majorité blanche, catholique, etc., pourquoi voulez-vous qu'on intègre d'autres?
Et alors en France ou en Europe, vous sentez que, en France par exemple, c'est ce souhait d'intégration, il bloque la créolisation?
Absolument. À partir du moment où vous acceptez que une communauté, par exemple la communauté des Juifs de France, elle est parfaitement juive, elle est parfaitement française. Je ne vois pas l'opposition qu'il peut y avoir à être juif et de confession hébraïque et à être français, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. De même, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre le fait d'être musulman et le fait d'être français. Je ne vois pas. Bon, et si les gens veulent porter leur mouchoir, bien ils portent leur mouchoir, ça c'est leur problème. C'est ça que je ne comprends pas. L'intégration forcée sur les signes et les rituels. Et ça, c'est une sottise. Parce que c'est ça, ça affaiblit une communauté plutôt que ça la renforce.
C'était un entretien de 2003. Alors, une réaction, Françoise Simasocci ? Non, Myriam ?
Beaucoup de choses à dire, en fait.
Allez-y, mais on va ensuite laisser la salle poser les questions.
Je réagis pas. Je trouve qu'il y a trop de choses.
Non, mais pour moi, l'assimilation, elle a été plus un discours politique qu'une réalité dans les sociétés colonisées ou même coloniales. Ça, je pense que c'est un des
Non, mais on sait bien qu'en France, c'est tout un débat sur en France, le républicanisme fait qu'on ne doit jamais définir les gens par leurs origines, leur ethnicité, leur religion. Mais voilà, le citoyen à égalité. On sait très bien, au fond, que ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est quand même le mythe républicain.
Hein, absolument.
Voilà. Donc le mythe de l'intégration par rapport à des sociétés multiculturelles qui sont dans l'accommodement. Voilà. Et je crois que, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qu'aucun des deux modèles ne satisfait Édouard Glissant.
Oui. Hein.
Le multiculturalisme, au fond, c'est chacun dans sa tribu, chacun dans sa communauté, on est par quartier, mais au fond, on ne se mélange pas. Et puis, sinon, l'intégration, le républicanisme, l'universalisme, c'est tout le monde. Tout le monde à poil, il faut absolument qu'aucune tête ne dépasse, et puis pas de signe distinctif, hein, ou bien l'uniforme qui donne l'impression qu'on appartient tous à la même nation, sans différence. Quoi. Donc là, c'est quand même l'idée d'une société qui, à la fois, est faite de différences, mais surtout de relations entre ces différences, qui ne cessent de faire de la différence. Et donc ça, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des sociétés comme ça ? Est-ce que... je crois que... Quand ils nous demandaient un peu quel était le pays qui s'approchait le plus de la créolisation, ils disaient c'est un peu le Brésil. Hein.
Oui, on n'a pas la même expérience.
Bon, mais enfin bon, je dirais peu importe le réel, l'essentiel c'est l'utopie.
Mais c'est précisément ça la question aussi. C'est-à-dire comment l'utopie peut informer une analyse du réel.
Oui.
Je pense que c'est... Et bon, Glissant nous apporte cela.
Oui. Juste une dernière question, mais qui est un petit peu vive et contemporaine, mais au-delà d'Edouard Glissant. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur les problèmes d'appropriation culturelle. Hein, où on considère que, au fond, la question de l'esclavage ne doit être abordée que par des, entre guillemets, descendants d'esclaves ou par des Afro-Américains, et même en France aussi, où finalement, il y a une sorte de condamnation de tous ceux qui, justement, ne seraient pas respectueux de la mémoire des autres, alors que, justement, dans la mémoire des esclavages, Glissant ne cesse de parler de mémoire transversale, d'histoire aussi transversale qu'on peut adopter.
On peut rassembler les mémoires de
communication entre différentes mémoires et notamment de mémoires traumatiques. Et donc cette idée aujourd'hui de critique de l'appropriation culturelle peut sembler très très loin des idées de Glissant, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes au cœur de ces débats.
Moi, c'est une question que je ne peux pas traiter au niveau personnellement. Enfin, elle qui me pose problème, parce que ce qui, alors qu'on pourrait dire aussi autrement, pourquoi vous, en tant que blanche, est-ce que vous êtes légitime pour parler de l'esclavage ? Qui est une autre façon de dire les choses et qui entre vraiment collision avec mon histoire personnelle. Et le fait que ma mère soit martiniquaise et que je sois issue d'une famille qui est métisse, avec des ancêtres esclaves, dont je sais la date d'affranchissement, je sais qui c'était, tout ça. Donc moi, je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Vous voyez, parce que je ne sais pas comment me positionner par rapport à ce cadre-là, parce que je me sens totalement portée l'histoire de l'esclavage. Totalement. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Enfin, c'est un exercice scientifique et je ne confonds pas les deux. je ne confonds pas l'exercice d'analyse et puis les positions personnelles, mais en même temps, l'histoire de l'esclavage, voilà, elle est. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas.
Françoise.
Moi non plus, je ne sais pas. Non, parce que moi, je ne suis pas du tout dans cette perspective d'estimer qu'il y a des précarés et que. Je pense que justement, Glissant, ce qu'il envisageait, c'était une troisième voie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez. Bon, peut-être utopique, mais on a besoin d'utopie, hein, à penser qu'on peut partager et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun les uns avec les autres et qu'on peut très bien accepter la relation, hein, qui est des sociétés dans lesquelles il n'y aurait pas de. Aucune composante ne serait. Moins valorisé que l'autre. Hein. L'idée de la créolisation, c'est quand même aussi ça. Hein. C'est l'idée d'une équivalence de toutes les composantes, que toutes les composantes qui sont dans ces sociétés soient traitées à équivalence. Hein, et que la relation circule entre toutes ces composantes sans hiérarchisation aucune. Mmh. Donc, je ne vois pas très bien comment on peut réclamer d'avoir un champ qui n'appartiendrait qu'à certains et qui serait interdit à d'autres. C'est quelque chose qui m'est complètement étranger, moi.
Oui, je suis absolument d'accord, parce que pour moi, c'est une vision assez terrifiante du monde. Je pense que effectivement, la question de la relation est centrale. Cependant, je pense que les problématiques sur l'appropriation culturelle induisent une vigilance pour les chercheurs, c'est-à-dire une sorte de vigilance sur les représentations dont nous sommes porteurs et aussi sur le vocabulaire que nous employons quand nous analysons, quand nous écrivons nos textes. Mmh. Parce que justement, de cette façon-là, il y a des représentations qui passent, mais qui ne tiennent pas à l'origine. Qui ne tiennent pas à l'origine, bien évidemment. Mmh. Qui ne tiennent pas du tout à ce que l'on est. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on est ? Est-ce que c'est simplement l'image que l'on produit ? Voilà. Donc, je pense que la vigilance sur les termes est importante. Moi, je me souviens de. Enfin, il y a beaucoup, par exemple, autour de la révolution haïtienne, toute une école historique qui parle des rebelles haïtiens qui cependant ont gagné la révolution. Donc à quel moment on continue à parler de personnes comme des rebelles alors qu'elles ont gagné. Vous voyez, c'est ce genre de vigilance qui me semble très importante à avoir.
D'accord. Si je conclue provisoirement, bien sûr, hein, et ensuite on laisse la parole à ceux qui veulent la prendre. Glissant pour Myriam, si j'ai compris bien, est plus du côté de l'utopie que du réel.
Oui.
Une sorte d'horizon régulateur qui permet.
D'horizon d'attente aussi.
D'horizon d'attente. Hein,
d'horizon d'attente.
Oui, d'accord.
Oui, aussi.
Et Françoise, quand même, une pratique du réel, quand même, à partir de Glissant, non ? Ou finalement, les idées de Glissant.
Moi, je lis Glissant écrit l'utopie.
Micro.
L'utopie est ce qui manque au monde, le seul réalisme capable de dénouer le nœud des impossibles.
Ah,
moi, j'y crois. Je pense qu'on peut dénouer le nœud des impossibles. Ça, il faut, voilà, comme disait Césaire, un pas après l'autre. Voilà, pas par pas.
Merci beaucoup. Alors, qui veut poser une ou des questions sur les sujets qu'on a abordés ? C'est à vous. Alors, une première question ici.
Bonsoir, merci pour vos interventions passionnantes. Ce n'est pas une question que j'ai à poser, mais plutôt une remarque par rapport justement au dernier point que vous avez soulevé sur l'appropriation et la légitimité. Il me semble qu'effectivement, aucun sujet ne doit être le précaré de certains ou être le joug pour effectivement séparer des chercheurs ou des spécialistes du reste du monde et de la société civile par exemple. Mais je pense que ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est de se dire que il y a aussi des personnes concernées qui réclament en fait de la parole et de pouvoir aussi s'exprimer. Et je pense que souvent, ce qui est reproché, c'est plutôt le fait de se dire qu'on parle de ces sujets, mais sans finalement prendre en considération la parole des personnes qui sont concernées.
Oui, on parle à la place des autres, quoi.
Exactement. Voilà, c'est un peu aussi dans la lignée de ce que pouvait analyser Saïd sur l'orientalisme, voilà, la fabrique de l'Orient par l'Occident, et c'est comment à un moment donné on donne, voilà, encore une fois la parole aux différentes personnes qui sont concernées par les sujets, et en l'occurrence effectivement c'est plutôt voilà, inclusif. Merci.
Moi, j'ai juste rajouté quelque chose. Je pense que c'est aussi parce que ce sont, pour beaucoup de ces champs de recherche, il y a une certaine, ce sont des sujets sensibles. Et on était dans un colloque la semaine dernière avec quelques collègues. Et la même question est arrivée sur la littérature. Hein, littérature. Est-ce que... on peut pas. Enfin, est-ce que il y aurait pas des choses à préserver, pour donner une sorte de priorité ou à ceux qui sont directement concernés. Moi, je suis d'accord sur la vigilance. Je pense que de toute façon, quand on s'intéresse à ces questions, on est forcément vigilant et forcément extrêmement. Enfin, si on est ni vigilant ni critique, oui. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui recommence, hein, et qui continue ou qui échappe, mais. J'aimerais pas, par exemple, qu'on me dise si tu veux faire une spécialisation sur le Moyen-Âge, tu ne peux. Enfin, est-ce que tu es bien placé pour réfléchir à ce qui se passe au Moyen-Âge ? Je n'aimerais pas qu'on me dise ça. Bon, il se trouve que c'est pas là-dessus que j'ai choisi de travailler, puisque c'est pour ça que je dis qu'il y a cette dimension identitaire, sensible, etc., qui fait qu'un objet de recherche, il a forcément un rapport avec nous, etc. Mais on peut avoir différents rapports avec les objets de recherche, voilà. Et je pense que je pense qu'il faut accueillir sans se laisser déborder ou sans être inconscient de ce qui peut se dire ou ne pas être vigilant, attentif, etc. à ce qui peut se dire. Mais on a le droit d'accueillir n'importe qui dans une recherche à partir du moment où on pense que ça peut faire avancer la recherche. Mais bien sûr qu'il y a, c'est un sujet sensible, je trouve. Voilà.
Notre question.
Qui nous pose aussi des questions en tant que chercheur, parce que est-ce que le chercheur réfléchit suivant la logique propre de son champ d'expertise, ou est-ce que au contraire il est en relation aussi avec la société dite civile? Je pense qu'en sont aussi des questions que nous devons avoir à l'esprit en permanence.
Une question ou observation ici. Pourquoi vous n'avez pas parlé du discours antillais, qui date des années 80 et qui est paru en poche, où là, Glissant fait une réflexion sur la langue. Le créole, c'est sans quoi les Antillais se reconnaissent, mais c'est aussi la langue du maître, déformée par les différents vecteurs d'apprentissage et de socialisation. Il dit, bon, on l'apprend, mais on exprime plus que la langue du maître, le français, pour dire l'antillénité à une certaine époque. Donc là, il fait l'effort d'identité, il passe par un effort sur la langue, un peu à la Fanon, le rapport maître-esclave. Donc il y a ce moment, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi ne parlez pas aussi de politique de la relation, où là il met en avant la relation, et l'identité, elle est d'abord dans le symbolique et dans la relation. Donc après, dans tout le monde, il peut dire, puisque le monde est fait de relations, culturelles, sociales, économiques, domination, dominant, et échanges, ben, les identités sont multiples dans ces relations qui se tissent. Le propre de quelqu'un qui pense ou qui agit, c'est ça. Quelles sont les relations où j'agis? Où est-ce que je place mon identité? Pourquoi vous avez scotomisé le discours entier, qui est important pour moi dans la phase de...
Je ne sais pas, bon, qui, alors, je sais pas qui la question s'adresse.
Et mon livre de chevet, non, mais quasiment. Parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, la poétique de la relation. Enfin, je veux dire, il y a la liste des textes de Glissant. Déjà, on se précipite, on dit les choses à moitié très mal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, mais bien sûr qu'on ne néglige absolument pas le discours antillais. C'est, Oui, pas seulement.
Bien sûr. Faut préciser aussi que vous avez cité deux ouvrages très très importants de Glissant, qui correspondent à des moments aussi différents, c'est-à-dire un moment aussi de grand engagement, aussi en anticolonialiste, un peu plutôt marxiste, au moment du discours antillais, avec toute une série d'analyses politiques, anthropologiques, aussi toute la question sur la folie, aussi toute l'étude aussi psychiatrique sur la folie, ça. Donc voilà. Et puis ensuite, on passe, bon, c'est seulement 10 ans après, mais enfin, quand même, on passe à une réflexion qui est plutôt de l'ordre de la relation où le rapport dominant-dominé n'est plus le vecteur de compréhension de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, il y a une question aussi qu'on n'a pas abordée, c'est la question strictement politique. Hein. C'est vrai que c'est aussi un chapitre dont on aurait pu parler, c'est-à-dire l'engagement à la fois anticolonialiste très fort d'Edouard Glissant, signataire du manifeste des 121, donc engagé donc pour l'indépendance de l'Algérie, engagé aussi évidemment pour les indépendances africaines, et puis quand même aussi l'aspiration... il n'aurait pas aimé que je dise ça marxiste, bon, mais, parce qu'il y a le passage par Cuba. Je me suis fait parfois remonter les bretelles par Glissant en disant « Mais ça n'a rien de marxiste, Cuba, c'est après que c'est arrivé, voilà, ça, pas du tout, c'est pas du tout une révolution de gauche. » Bon, il me renvoyait dans les cordes. Mais il y avait quand même une inspiration aussi, quand même, malgré tout, politique, idéologique assez forte après son passage à Cuba. Et puis après, une déception, Françoise Sima Sochi, on a parlé tout à l'heure sur le fait que, bon, il a un peu renoncé à l'idée d'une indépendance dans la Caraïbe. D'ailleurs, le discours antillais commence par une formule. Si un jour vous voulez voir ce que c'est qu'une colonie réussie, il n'y en aura plus, mais vous pourrez aller voir les Antilles.
Il y a beaucoup de pessimisme dans le discours antillais, oui. Quand il parle d'un peuple de vaincus, etc.
Après, malgré tout, il me semble qu'il développe plutôt une pensée de l'interdépendance,
oui, c'est ça.
Qu'une pensée indépendantiste. Dont tu as rappelé au départ qu'elle l'opposait à Césaire et l'opposait au choix de la départementalisation. Mais je crois qu'en tout cas, à partir des années 90, il est plutôt dans cette idée de l'interdépendance. Ce qui lui a valu d'ailleurs de la part de certains marxistes des critiques en disant « Mais oui, il s'est dépolitisé, tout ça c'est parce qu'il a lu Deleuze et que voilà, il n'est plus vraiment dans les cordes, etc. » Bon, ce qui est, bon, à mon avis, une erreur de lecture, hein, mais en tout cas qui montre qu'il y a toute une évolution du débat politique. D'ailleurs, c'est une question, il a écrit « Philosophie de la relation, poétique de la relation, oui. Esthétique de la relation » et on se dirait bah, « Tiens, et politique de la relation hein. ?» Pourquoi il n'y a pas politique de la relation?
Il appelle dans l'intraitable beauté du monde, il appelle Obama à mettre en œuvre de manière totalement utopique quelque chose qui serait de l'ordre d'une politique de la relation.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous poussais en fait la réflexion sur l'opposition de façade qui existe entre... Enfin, tout ce que vous venez de développer en fait sur l'idée de Monsieur Glissant et la négritude en fait. Alors vous me dites que Césaire, il se trouve que je pense pas en fait qu'il y ait la définition de 1930 de la négritude et celle de 1980. Je vais juste citer en fait. Une formule en fait 87. Qui se trouve dans un de ces cahiers d'un retour au pays natal. Et moi, ma définition de la négritude, elle se trouve là en fait. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Alors, pour moi, la négritude, c'est ça en fait, personnellement. Oui, ça ne change pas. Alors, qu'on dise que... l'identité, moi je vois en fait voilà, je vois l'idée de Glissant et celle de la négritude en fait comme étant complémentaires et non pas d'opposition. Voilà.
Alors, nouveau discours sur la négritude, Césaire, il a été publié en 87. Hein. Il dit que la négritude a répondu à un besoin. Et donc, dans ce discours, hein, il définit les contours de la communauté nègre, enfin touchée par la négriture, d'une manière à la fois transethnique et transgéographique. Hein. Ce qu'il dit, c'est la négritude, il énonce toute une série de négations, n'est pas un dolorisme, etc., etc. Et il dit, la négritude, c'est celle des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, qui ont souffert et souffrent encore d'être marginalisés et opprimés. Voilà. Donc oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de,
de rupture. Si vous dites qu'il n'y a pas de rupture entre, enfin qu'il n'y a pas de différence entre la position de Glissant et celle de Césaire, c'est ce que vous venez de dire. Oui, on est d'accord, non ?
Je sais pas ce qu'il a dit.
C'est ce que j'ai entendu.
Non, enfin,
à une complémentarité. Oui, mais oui, on est d'accord, oui, sur d'accord. La complémentarité.
Non, je pense en fait qu'il y avait une rupture même en fait dans la philosophie en fait de Césaire, le fait qu'il ait donné une définition en fait de la négritude qui soit, allez, minimaliste en fait des années 30 et une définition beaucoup plus globale en fait des années 80. Non, mais c'était ça en fait.
Oui, non, c'est pas ça. D'accord. Surtout que Césaire a été, comme Glissant, le compagnon de beaucoup de luttes dans le monde pour toutes les indépendances. Il a soutenu toutes les luttes indépendantistes dans le monde. Donc oui, il était déjà dans cette vision très large de la négritude.
D'autres questions ?
Bonsoir. Je voudrais juste poser une question qui concerne la société esclavagiste. Donc, je voudrais poser une question à Madame Myriam Kotchias. Dans le 4e siècle de Dark Glissant, il y a une scène dans laquelle un esclave a été nommé Glissant parce que son propriétaire s'appelle Sangli. Donc, voilà. En renversant le nom du propriétaire, on a nommé son ex-esclave. Donc, voilà, donc, historique, est-ce que cette manière de nomination a été possible historiquement? Qu'est-ce que vous en pensez comme historienne?
Écoutez, c'est un sujet de recherche qui a été pas mal développé. Justement, l'attribution du nom. Notamment en 1848, hein, où là, ça va devenir quelque chose de massif, puisque ce sont tous les nouveaux affranchis qui se présentent devant les officiers d'état civil, et surtout des hommes, hein, parce qu'il faut savoir que l'attribution du nom est liée au vote pour l'Assemblée nationale qui arrive 2 mois après l'abolition de l'esclavage. Formidable utopie républicaine. C'est-à-dire qu'on crée l'égalité immédiatement après l'abolition de l'esclavage. Bon, égalité qu'il faudrait interroger, mais ça, ce n'est pas le propos. Et donc, il y a plusieurs systèmes dans l'attribution du nom. Il y a des nouveaux affranchis qui arrivaient avec des idées très précises de la façon dont ils voulaient être nommés. Il y avait la fantaisie aussi des officiers d'état civil. Donc on a des Tancred, par exemple dans les noms, on a des, moi j'ai retrouvé des Montdésir dits Champagne, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Alors maintenant qui paraissent comiques, mais je ne pense pas qu'ils soient dans une démarche de dérision. Enfin en tout cas pas tout le monde. Il y en a quand même. Pour les personnes qui parlent créole, il y a Gros Lolo aussi. Vous voyez, donc ça, on peut dire que là, on est dans la dérision, bien évidemment. Avoir le nom d'un maître était interdit, ce qui explique effectivement qu'on a renversé les consonnes, hein, qu'on a renversé les syllabes, puisqu'il y a eu plusieurs édits depuis le XVIIIe siècle qui empêchait aux nouveaux affranchis d'avoir le nom
aux
des
États-Unis aussi.
Non, il y a un choix aux États-Unis du nom qui est beaucoup plus large. Mais pour les Antilles françaises, et Édouard Glissant d'ailleurs, n'a pas toujours porté le nom de Glissant. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a eu des stratégies aussi concernant les noms, et notamment des stratégies dans la reconnaissance des enfants. Certains enfants étaient reconnus et allaient porter le nom du père, tandis que d'autres enfants n'allaient pas l'être. C'est un peu ce qui est l'histoire d'Édouard Glissant, puisque son père ne le reconnaît pas jusqu'à son entrée en sixième. c'était extraordinaire d'entrer et de pouvoir avoir la perspective de faire des études et pour reconnaître ce parcours autant que son enfant, son père va lui donner son nom, donc Glissant. Donc c'est pas une question anodine, elle est complexe la question des noms et il y a beaucoup d'autres questions qui l'entourent.
Justement, dans le IVe siècle, il y a toute une scène où on attribue des noms de manière complètement dérisoire. Il narre une cérémonie enfin, où tous les esclaves se présentent et on les nomme. Et ça se termine, ce passage, à un moment, à la fin, Glissant dit « Qu'importe la dérision du nom si celui qui le porte l'habite et lui donne un sens ?» Et je trouve ça très beau, parce que voilà, Glissant, c'est très beau.
c'est très beau et c'est très vrai là, en l'occurrence,
bien sûr.
Puisque l'appropriation du nom va se faire très progressivement dans les populations antillaises. C'est-à-dire que ce qui est maintenant présenté comme un acte symbolique extrêmement fort, alors bien sûr, c'est reconnaître la liberté, c'est reconnaître un statut civil de libre, mais pour les nouveaux affranchis, ça n'a pas cette signification-là. Parce qu'on est dans un nom, on est dans un nom administratif. Mmh. Et c'est un nom administratif qui est imposé et qui finalement n'est pas celui qui est utilisé au sein de la communauté. Et donc ça, c'est ça. Et voilà, Glissant, le don caché. Il parle du nom, du nom caché. Et ça, c'est très intéressant. Et ça fait partie des apports de Glissant à la réflexion, historique. Parce qu'on voit bien comment ce nom, finalement, il appartient à la République. Il va permettre de gérer des relations administratives, oui. Mais il ne dit rien. Il ne dit rien du soi. Et il ne dit rien de la communauté paysanne. Il ne dit rien du village. Il ne dit rien de ces relations. Et vous savez que dans les Antilles françaises, il y a plusieurs noms. Et que parfois, c'est au moment... plusieurs noms qui ne sont pas connus par tout le monde. Hein. Et on connaît une personne suivant la position que l'on a, le type de relation. Et c'est souvent au moment des avis d'obsèques qu'on connaît l'ensemble des noms que portait cette personne-là. Donc ce n'est pas une question anodine. Et Glissant en a magnifiquement parlé.
Oui, oui. Et pour revenir à la question de monsieur, sur la question justement de la langue, je crois aussi qu'il y a un enjeu très fort par rapport à la filiation patronymique qui a inscrit une généalogie et une légitimité, une filiation. Là, cet usage fantaisiste et aussi ce goût des surnoms, de pouvoir avoir plusieurs noms, montre bien le rapport à l'identité. Si effectivement l'identité est une identité toujours en relation, c'est-à-dire adressée pour un tel je m'appelle comme ci, pour tel autre je m'appelle comme ça, pour un tel je m'appelle Glissant ou Sangli ou je m'appelle Godby, voilà, puisque c'était aussi un des surnoms, ouais, comme on l'appelait Edouard Glissant. Finalement, il y a une multiplicité d'identités possibles qui font que l'identité n'existe que dans la relation aux autres, dans l'appellation au sens où on m'appelle, et on m'appelle comme ci ou comme ça, et c'est l'appel qui me définit, et non pas l'héritage d'un nom qui vient de je ne sais combien de générations et qui donne la légitimité, par exemple, de faire des études médiévales. Voilà.
Ce que Simazucci ne donne pas forcément.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait un écrivain français qui disait que voilà, il fallait avoir au moins 10 générations de Français pour comprendre Racine.
Ah.
Hein. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion.
Et pour être aimé.
Voilà. Je crois que Édouard Glissant a montré le contraire.
Absolument.
Hein, oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Non? Alors, je crois que... Non?
Ah.
Oui, une question?
En fait, moi, je suis venu pour assister à cette rencontre. En fait, le seul livre que j'ai lu d'Edouard Glissant, c'est La Lézarde. Et je n'ai pas tout compris, en fait. Mais cependant, je suis d'accord avec lui quand il dit que nous sommes un cumul de choses, en fait. Parce que, En fait, il dit que, par exemple, il y a les Juifs de France, enfin, ceux qui sont les Français de confession juive, sont parfaitement juifs et parfaitement français. Mais en fait, ça amène la question pour les Noirs. Qu'est-ce qu'il en est des Noirs? Est-ce qu'on peut être noir et parfaitement français? Et parce que mes parents sont guadeloupéens, et lorsqu'on je leur parle de la notion d'identité, ça les gêne profondément. Par exemple, la créolisation, elle a bien eu lieu, hein, puisque... enfin, moi, je m'exprime en tant que mélomane. Hein. Par exemple, la musique des Américains noirs est une musique qui leur est propre et spécifique. C'est une musique de noirs, mais elle n'est pas africaine. C'est une musique occidentale, mais elle n'est pas européenne. Donc, il y a une créolisation. Et pourtant, ils se revendiquent comme africains. Alors que les Guadeloupéens, se revendiquent comme créoles, alors que leur musique emblématique traditionnelle, Groka, c'est de la musique africaine, bantou. Très, très identifiable. Et donc, en fait, c'est très paradoxal, tout ça. Donc, c'est très complexe quand on parle de l'identité et tout ça. Moi, je pense qu'on est plutôt un cumul de choses, en fait. On accumule des choses. C'est-à-dire que, par exemple, j'accepte vraiment la diversité des cultures qui sont présentes en France, des différentes ethnies. Et aussi bien celle qui est dominante. Par exemple, j'aime bien aller assister à des concerts de musique contemporaine qui ont lieu parfois ici. Mais j'aime bien entendre aussi les archives sur la musique traditionnelle africaine faites par Radio France. Même si je ne comprends pas la langue, mais je me dis que ça fait partie de ma culture. Toutes ces cultures sont ma culture. Et donc, en fait, je crois que... mais il faudrait que je lise beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres d'Edouard Glissant, parce que... D'ailleurs, peut-être le premier, parce que j'ai assisté à la conférence précédente. Et c'était... comment ça s'appelle le premier? L'éveil. L'éveil,
le soleil de la conscience.
Soleil de la conscience. Oui. Ben, il faudrait que ce livre n'est pas disponible dans le réseau des bibliothèques municipales de Paris, donc je ne peux pas l'emprunter. Donc je n'aurai pas le choix, je suis obligé d'aller.
Je suis sûr qu'il est ici.
Donc il va falloir que je prenne le temps de le lire. Mais enfin, c'est complexe, quoi.
Oh, mais c'est formidable si ça produit.
Il est effectivement présent à la BPI. Merci bien sûr à nos intervenants de ce soir, François Noudelman, François Simasocci, Brones et Myriam Cotias, pour ces débats intéressants. Merci à vous tous pour votre attention soutenue. Vous pourrez bien sûr revoir ce débat prochainement sur le site de la BPI, la Web TV BPI, puisque cette rencontre a été enregistrée et filmée, donc vous pourrez le retrouver, comme le précédent d'ailleurs, une fois qu'il sera mis en ligne. Et nous vous retrouvons le 16 avril, donc pour la dernière rencontre de ce cycle, qui sera consacrée à la philosophie esthétique d'Edouard Glissant. Merci et bonne soirée.